Alors donc, j'ai la mission de vous présenter, en point divers numéro 2, puisque c'est la loi qui m'y oblige, le rapport définitif de la Cour des comptes, qui porte sur une période couvrant l'année 2004 jusqu'au premier trimestre 2009. Alors pour ma part, je ne vais pas vous la présenter vraiment, je vais peut-être vous écouter si les uns et les autres vous avez des commentaires à faire. Mais je voudrais simplement vous dire qu'il s'agit d'un travail précis et fouillé qui est fait par des magistrats dont, me concernant, je ne mets pas en doute les analyses puisqu'ils sont des professionnels de la chose et je respecte par principe le travail des magistrats. Et les analyses qui sont données sur un certain nombre de sujets, ils ont rejoint les débats que nous avons pu avoir en début de mandat sur la situation de notre ville. Et donc, j'ai pu voir par-ci, par-là qu'il s'agissait de jubilation en aucun cas. Il s'agit simplement d'un constat. D'un constat correspondant à ce que moi-même j'avais eu l'occasion de vous faire observer durant les débats que nous avons eus en début de mandat. Alors, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent faire des commentaires complémentaires et prendre la parole, eh bien, je prends note. Monsieur Lyogé, alors je vais noter. Oui. Qui veut prendre la parole? Monsieur Jean, Madame Friche-Renard. Antoine Fontet, j'ai vu déjà. Monsieur Thiel. Antoine Fontet.
Zimmermann.
Alors,
Madame Nicolas.
Monsieur Aldrin.
Madame Nicolas.
Madame Nicolas.
Colin Osterlé.
Madame Colin.
Monsieur Jacquard.
Monsieur Jacquard.
Madame Zimmermann.
Madame Zimmermann. Voilà, bah écoutez, une belle liste. Ah, j'avais pas noté. Docteur Califé. Eh bien, on va commencer par Monsieur Lyogé. Monsieur Lyogé.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, ce rapport de la Chambre régionale des comptes est pour nous l'occasion d'une réflexion sur l'avenir de Metz. Il n'est pas celui d'une revanche ou celui d'instaurer une polémique vaine avec notre prédécesseur, mais bien celui de regarder modestement ce que nous avons entrepris depuis 2 ans et demi de mandat et de réfléchir à ce que nous voulons lancer ou corriger dans les années à venir. Moment aussi, bien sûr, de faire le bilan des erreurs, mais sans polémique, sans les outrances que la politique prend parfois et qui la discrédite. Engageons le débat en remarquant que ce rapport valide point par point, je dis bien point par point, l'audit que nous avions demandé en début de notre mandat. On y trouve notamment le fameux effet ciseau rendant inévitable la hausse des impôts qui fut l'antienne de notre opposition. Le rapport incontestable, par son objectivité de la plus haute instance de contrôle de l'État, valide ainsi un élément de notre politique qui, malheureusement, était rendu inévitable. Je dis bien malheureusement parce qu'en effet, nous avons conscience que la pression fiscale est surtout supportée difficilement par les plus pauvres d'entre nous, voire par les classes moyennes. Aujourd'hui, comme je le disais en clôture de notre premier débat budgétaire en prenant date, le gouvernement s'en rend enfin compte et augmente lui-même aussi les impôts, de manière détournée certes, mais indiscutable. Dans une période de déficit budgétaire, nos choix auraient été de faire peser cette augmentation sur les plus riches et de supprimer le fameux bouclier fiscal. Mais passons. Retenons simplement que, pour ce qui nous concerne, l'augmentation progressive de la pression fiscale depuis les années 2000 aurait été moins douloureuse puisque permettant de reconstituer nos capacités d'autofinancement plus tôt, elle aurait eu un effet de levier bien avant, au service des investissements à réaliser, le tout au profit d'un projet tenu fermement. Il y a bien en effet un lien fort entre la nécessité de maintenir une capacité d'autofinancement et celle de réaliser avec détermination des investissements. Je passerai sur la critique au sujet de la sincérité des comptes, qui souligne quand même l'écart conséquent entre investissements votés et investissements réalisés, écart qui, de mon point de vue, pose problème pour la démocratie même. Parce que ce qui se cache derrière cette insincérité tient au débat public et au vote sur un budget présenté de manière contradictoire. Comment en effet comprendre qu'à l'issue d'un débat et d'un vote démocratique, on ne réalise pas ce qu'on s'est engagé de faire devant les citoyens et leurs représentants ? Quelle portée peut avoir les débats dans cette assemblée ? Quelle portée peuvent donc avoir les débats dans cette assemblée ? Investissement, je disais, voilà la clé de notre politique, le hard, la trace que nous laissons à nos citoyens. Trace que nous laissons dans les canalisations pour leur éviter d'exploser, dans les actes pour construire la ville de demain, dans la réfection des locaux, voire dans la gestion prévisionnelle et saine de notre patrimoine bâti. C'est peu dire aussi que nous avons été épinglés sur le sujet. C'était une scandaleuse histoire d'eau avant qu'une canalisation explose boulevard Pexan, privant nos concitoyens d'eau pendant des heures. La politique est aussi faite du courage de réaliser des investissements qui coûtent et ne se voient pas. Le rythme élevé de nos investissements, couplé à un taux de réalisation souligné comme en nette progression par la Chambre, nous permet de préparer la ville de demain, d'accompagner Pompidou et de profiter de son effet levier, notamment sur la ZAC de l'Amphithéâtre, ZAC où, en un an et demi, nous avons repris tout le projet pour aboutir, dans les jours qui viennent, à la pose de la première pierre des 30 000 m² de l'îlot B2, au dépôt du PC de 80 000 m² dans les mois qui viennent et à la purge du PC de la halle Michelin. Car c'est bien ville et agglomération qui, avec leur outil à Sarem, travaillent de concert sur cette ZAC. Dans ce cas, le portage politique permet les investissements. Et je ne veux pas insister sur un débat que nous avons déjà eu. Non, nous ne nous sommes pas contentés de suivre la voie déjà tracée sur l'amphi, comme sur la place de la République ou sur les coteaux de la Seille. Nous avons revu profondément ces projets d'investissement si essentiels pour notre cité. Revus en les rendant notamment économiquement et écologiquement viables. Aussi, le taux de réalisation est-il au service d'une politique, d'une vision de la ville, différente, même si, en apparence, c'est une continuité. L'investissement se fait au profit de nos entreprises, de la relance, de l'emploi. Aux grincheux qui trouveraient qu'il y a trop de travaux, je plagierais une pub récente de la SNCF parue dans Le Monde. 4 nouvelles lignes TGV, veuillez nous excuser pour le projet, pour le progrès occasionné. Vous pouvez le voir dans Le Monde de mardi. Le patrimoine, enfin. Ce sera la deuxième partie très brève de mon intervention. Tout comme l'investissement a besoin de se réaliser, le patrimoine a besoin d'être entretenu et même vendu avant qu'il ne coûte à la collectivité, voire qu'il ne se détériore et donc perde de sa valeur. Rappelons qu'un beau patrimoine comme celui du boulevard de Trèves fut vendu 600 000 euros, c'est-à-dire le prix d'un bel appartement. Certes, il ne valait pas mieux au regard de l'investissement, encore lui, car la question du patrimoine nous renvoie aussi de manière récurrente à celle de l'investissement. Encore faut-il connaître son patrimoine. Et qu'il n'existe pas un écart de 38 millions d'euros entre l'évaluation de la ville et celle de l'État. J'ai entendu ça et là quelques critiques sur notre approche du patrimoine, mais excusez du peu, 38 millions d'euros. Quand nous avons eu des discussions sur une évaluation des domaines, à quelques milliers d'euros près. Nous prenons ce cap. C'est ce qui nous reste à faire pour ne pas avoir dans les années à venir à subir encore les critiques comprises dans le présent rapport, connaître son patrimoine pour l'entretenir et éventuellement, à partir d'une évaluation sereine des biens faits comme nous le proposons aujourd'hui, ou comme le font les services de l'État aujourd'hui, je pense par exemple à RFF, un plan d'aliénation de ce patrimoine. Soyons modestes, cela reste une chose à faire, même si elle ne doit pas nous paralyser, nous réaliserons cette enquête et cette connaissance du patrimoine que nous reproche la Cour des comptes. Plus généralement sur cette question, un outil d'action sur le patrimoine de la ville sera d'ailleurs proposé dans ce sens bientôt au Conseil. Il est vrai que c'est sur tout le patrimoine privé et public que nous devons agir, l'exemple du boulevard de Trèves racheté à l'armée ou des interventions de l'EPFL sur les périmètres à enjeu étant des moyens d'action déterminants. Bref, ce rapport vient à point nommé non seulement pour valider notre politique, mais aussi pour nous améliorer, notamment sur ce dernier sujet. Chers collègues, je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur Jean.
Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, ce genre de rapport, c'est d'abord un éclairage du passé, et à ce titre-là, ça ne présente pas forcément un intérêt déterminant. Cela dit, il est difficile de savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient, et je crois qu'il est intéressant peut-être de revenir brièvement sur le passé, mais en tout cas de se projeter dans l'avenir et de trouver dans ce rapport ce que doit être demain. Alors, avant 2008, jadis, comme dirait Monsieur Thiel, à tous les débats d'orientation budgétaire, à tous les débats budgétaires et à tous les débats relatifs aux comptes administratifs et aux comptes de gestion, ceux qui évoquaient l'idée que la direction n'était pas forcément la bonne et que ce qui était présenté comme une gestion de bon père de famille, c'était peut-être pas une si bonne solution que ça. Alors, c'était évoqué, mais bon, ça donnait lieu à des qualifications d'incompétence, de bêtises, de tout ce qu'on veut. Bon, ça, c'était avant 2008. En 2008, lors du premier débat d'orientation budgétaire, il a été présenté une étude, et là, on n'était plus incompétent ou idiot, on était devenu menteur, et menteur un peu prévaricateur aussi, puisqu'on avait acheté Ernst & Young pour qu'il nous dise ce qu'on avait envie d'entendre. Cette année, avec beaucoup plus de sérénité, on a vu arriver la Chambre régionale des comptes. Alors, on les a pas payés, parce qu'on les paye pas. Puis, en plus, ils viennent sans qu'on les appelle. Ça permet, dans une très grande sérénité, de poser les vrais problèmes. Et puis, bon, il est dit que nos produits ont augmenté de 3% dans la période concernée, alors que nos charges ont augmenté de 5%. Bon, ça laisse quand même un montant de produits de fonctionnement aux alentours de 148 millions d'euros, pardon, et des charges de fonctionnement qui ne sont que de 126 millions d'euros. Donc, ça laisse une capacité d'autofinancement. Néanmoins, n'importe qui, n'importe quel ménage, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle collectivité doit s'interroger lorsque ses rentrées augmentent moins vite que ses sorties. C'est ça qu'on appelle l'effet ciseau qui fait rire certains, dont d'autres s'en fichent, d'après ce que j'ai lu récemment dans la presse. Si. N'empêche que, on peut l'appeler autrement, mais il n'en reste pas moins qu'on en est là. Alors face à ça, et face à l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, l'ancien maire, qui est principalement concerné par ce rapport, maintient de manière extrêmement ferme qu'il n'aurait pas augmenté les impôts. Alors, en réalité, c'était possible, il était très difficile de diminuer les charges, mais il était possible de ne pas augmenter les ressources. D'abord parce que ce ciseau, parce que c'en est un, a des courbes qui sont assez peu pentues. C'est dans un certain nombre d'années seulement qu'on arriverait à une capacité d'autofinancement à zéro. Donc, on pouvait encore se donner un petit peu de temps. Puis bon, on peut décider d'investir moins, mais là je reviendrai pas, je crois que Richard Lieuger a donné un certain nombre d'exemples tout à fait parlants. Et puis, comme il faut quand même investir un peu, on peut puiser dans l'épargne de la ville, c'est ce qui est ce qu'on peut imaginer en disant que la recette exceptionnelle de 45 millions d'euros puisse être placée pour être mobilisée annuellement sur la durée du mandat en cours, et préserver l'autofinancement municipal pour des investissements maîtrisés. Je cite, c'est une partie de la réponse de l'ancien maire à la Chambre régionale des comptes, réponse qui est en votre possession. Donc, on aurait pu, oui, c'est vrai qu'on aurait pu investir moins, on aurait pu tous les ans prendre un petit peu dans, ce que certains appellent la cagnotte. On aurait pu aussi se dire que finalement, c'est un peu plus loin dans la lettre, c'est vrai qu'on a vendu 15% de l'UM, on pouvait revendre 15%, puis encore 15%, hein, puisqu'on pouvait aller jusqu'à 49% si j'en crois ce qui est dans ce courrier. Alors, est-ce que c'est une gestion de bon père de famille? Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est plutôt une gestion de bon arrière-grand-père. Hein, on n'emprunte plus, on prend plus de risques, on n'investit plus, les enfants sont vieux, donc ils n'ont plus besoin de nous. Finalement, on se retrouve à se dire que la petite épargne ou la grosse épargne qu'on a constituée, eh bien, on peut puiser dedans. Alors, face à cette situation, qu'est-ce que nous proposons, qu'est-ce que nous avons fait depuis 2008? Je crois qu'il faut donner acte au fait que la ville était gérée avec rigueur et que ceux qui ont pu penser qu'il suffisait d'arriver et que toutes les charges pouvaient être réduites sans préjudice pour qui que ce soit, c'est illusoire. Donc il y avait fort peu d'élasticité. Par contre, il y a des choses qu'on aurait pu ne pas faire. Hein, on aurait pu ne pas faire la nuit blanche, on aurait pu ne pas faire le périscolaire, on pourrait ne pas s'intéresser au logement. Il y a tout un tas de choses qu'on pourrait ne pas faire, mais il se trouve qu'on a choisi de les faire. Et non seulement on a choisi de les faire, mais on avait dit aux gens avant qu'ils devaient voter pour nous parce qu'on allait les faire. Et comme ils ont voté pour nous, il se trouve qu'on se doit, de le faire. C'est de bonne gestion. Quant à la fameuse cagnotte, eh bien, il ne s'agit pas de la laisser produire ces 0,75%, enfin, sous réserve de vérification, mais c'est de cet ordre-là. Je vous ferai remarquer que si vous suivez les débats ici, eh bien, le maire en a déjà préaffecté un peu plus de la moitié. Hein, le maire a annoncé qu'il en mettrait, je parle sous son couvert bien évidemment, qu'il en mettrait 10 millions d'euros, qu'il en mettrait 10 millions dans le transport en commun en site propre. Il a dit que si l'opération se faisait, il en mettrait 10 millions dans le stade Saint-Symphorien. Il a dit qu'il mettrait 5 millions dans le palais des congrès. Cette cagnotte, entre guillemets, je répète, parce que ce n'en est pas une, elle est utilisée simplement sur des choses qui ont un caractère exceptionnel, sur des investissements non récurrents. Ce ne sont pas des investissements d'entretien, ce ne sont pas des investissements qu'on fait tous les ans. Ce sont des investissements d'équipement lourds qui nécessitent, là, effectivement, de mobiliser notre potentiel. Et puis, par ailleurs, toujours sur l'UM, parce que c'est un élément important, eh bien, l'UM, on n'a pas envie de diminuer notre participation dans le capital, et on vous proposera même au mois d'octobre la création d'une filiale avec une stratégie industrielle qui induit pour les 10 ou 20 ans à venir un autre modèle économique pour l'UM. Et puis, face à tout ça, on peut se comparer. Alors, on se compare à d'autres villes. Hein, le Messin, enfin, c'est pas le Messin, c'est la ville de Metz qui perçoit en moyenne par Messin 345 euros d'impôts. Dans la strate dans laquelle nous sommes, hein, 100 000 à 300 000 habitants, la moyenne est de 485 euros par habitant. Nous avons, sur la taxe d'habitation, un retard sur la moyenne de 24,4% et sur la taxe foncière, un retard de 36,7%. D'accord ? Je parle de chiffre 2008. Bon, 36,7%, c'est-à-dire que le propriétaire messin paye les deux tiers en impôts fonciers de ce qu'il payerait ailleurs en France, dans une ville comparable. Alors, bien sûr, il y a l'UM. Mais l'UM... L'UM, ça ne fait pas 36%. L'UM, ça fait entre 18 et 20%. Donc, il faut petit à petit rentrer dans la moyenne parce que c'est à ce prix que la ville sera plus attractive. C'est à ce prix que la ville sera... Si vous voulez, l'attractivité de la ville, c'est un débat évidemment essentiel, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, mais elle passe par tout un tas de choses. Elle passe aussi par le périscolaire, elle passe évidemment par le logement, elle passe par tout un tas d'investissements, mais aussi par tout un tas de choix politiques forts qui induisent effectivement des charges, qui induisent des coûts. Et ces coûts, nous devons de les assumer. Il n'y a aucune raison. Alors, on peut être très fier. Il y avait dans un quotidien, la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, enfin, la Tribune, pour ne pas le citer, il y a un article sur le poids du foncier. Hein. Metz est dernière. Bon, est-ce que vraiment, Metz est à ce point du tiers-monde que nous ne puissions attirer que parce que nous sommes moins chers? Non, Metz mérite sa place, Metz doit rentrer dans une norme et Metz doit être plus attractive et Metz doit se battre. Et je terminerai par deux éléments qui sont importants quand on parle fiscalité. D'abord le premier, et ils sont ni l'un ni l'autre du fait de l'ancien maire. Le premier, ce sont les restructurations militaires. Lorsque on constate qu'on a perdu 1100, 1099 exactement, foyers fiscaux entre 2005 et 2009, eh bien, il faut s'interroger parce qu'on va encore en perdre. D'accord ? Donc, on a encore face à nous une réelle difficulté. Et est-ce qu'on va s'arrêter de fonctionner au motif qu'on nous a imposé ces restructurations militaires ? C'est quelque chose que nous allons subir seulement dans les, principalement dans les années à venir, hein, et qui implique que nous trouvions le moyen d'assurer nos ressources. Et puis, autre point qui est, dernier point, qui est tout à fait incident, mais important aussi, hein, on ne passera pas à côté d'une augmentation importante de la fiscalité communautaire sur les ménages. Et ça, je le regrette, non pas dans l'absolu, parce qu'il faudra l'assumer, et on soutiendra Jean-Luc Beaune sur ce point, mais je m'adresse aux deux parlementaires qui sont là. C'est dommage qu'on ait cassé ce cercle vertueux qui consistait, lorsqu'une ville, une agglomération était dynamique, à augmenter sa ressource fiscale parce qu'augmentait ses bases de taxes professionnelles. Aujourd'hui, on a cassé cette relation entre le dynamisme d'un territoire et ces recettes fiscales, puisqu'elles sont, comme on le sait, compensées, mais elles sont compensées par des dotations d'État en grande partie, et ça, on peut le regretter. Voilà, donc je crois qu'il n'y a plus de polémique. Le dossier de le rapport de la Cour régionale des comptes, ben, moi, je le vois un petit peu comme un solde de tout compte. Tout le monde est d'accord aujourd'hui, on doit être d'accord. Hein, non ? Si, tout le monde est d'accord. Et bon, maintenant, il s'agit de conduire notre politique en nous donnant les moyens qu'elle nécessite. Je vous remercie.
Madame Fritsch-Renard, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur le maire, chers collègues. La question des ressources humaines est un sujet difficile et passionnant qui a beaucoup été le plus grand chapitre du compte-rendu de la Chambre régionale des comptes, et bien souvent il est occulté par la question des finances et de l'impôt. Avant toute chose, je tiens à affirmer ici haut et fort la qualité et le professionnalisme du personnel municipal. Les défaillances pointées par la Chambre régionale des comptes relèvent de dysfonctionnements de l'organisation. Le rapport de la Chambre régionale des comptes nous fournit une analyse pertinente de faits et de pratiques dangereuses et inefficaces. La plupart, nous les avions malheureusement constatés dès notre arrivée. Cette situation m'avait d'ailleurs à ce point heurtée par rapport à mon expérience professionnelle personnelle que j'avais suggéré à Monsieur le maire un audit du service des ressources humaines. Nous avons finalement privilégié une démarche souple de réorganisation des services pour éviter une chasse aux sorcières que nous jugions indigne et mettre en adéquation nos priorités et nos choix politiques avec l'organisation des services. Comme je l'avais dit à l'occasion de ces multiples réunions que nous avions donc menées dans le cadre de cette préparation d'organisation, la ville de Metz est un grand paquebot. Il ne peut se réorienter d'une pichenette et j'avais annoncé à l'époque la nécessité de réévaluer notre nouvelle organisation à l'horizon de 18 à 24 mois avec le recul de l'expérience. Nous arrivons à ce moment. Parallèlement à cette réorganisation nécessaire et pour pallier les déficits flagrants que nous avions identifiés, nous avons décidé la mise en œuvre des chantiers indispensables à une gestion active et moderne en nous appuyant sur le pôle ressources humaines et sur la mission modernisation. Ces chantiers, nous en avons déjà parlé, sont une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des plans de formation adaptés, une réflexion sur la réduction du temps de travail, l'amélioration des conditions de travail et de déprécarisation du personnel, un plan anti-discrimination, la mise en place d'un service dédié au dialogue social, la remise à plat des systèmes de notation, d'attribution de primes ou d'avantages pour rendre cohérentes les pratiques entre les divers services. Tous ces chantiers, nous les avons identifiés à notre arrivée et nous les avons lancés. Le rapport que la Chambre régionale des comptes nous remet aujourd'hui conforte nos choix. Il nous faut maintenant donc poursuivre ces actions. En guise de conclusion, mais elle est difficile car le travail est encore devant nous et nous nous y attelons d'arrache-pied avec le directeur général des services, je veux simplement dire quelques mots sur les témoignages poignants de personnels en grave souffrance que j'ai pu rencontrer. Ceci souligne humainement, s'il en était besoin, l'ampleur de notre tâche. Ce n'est pas par hasard qu'une de mes premières exigences a été de demander la visite des locaux Dreyfus Dupont. Au-delà des mots de ce rapport, il y a des mots, M-A-U-X, le mal-être du personnel et de ceux, nombreux, qui n'ont pas eu le courage de s'exprimer. La question des ressources humaines est souvent un sujet invisible, et c'est un sujet qui a été laissé en friche. Mais si nos chantiers sont menés à bien, et je suis aujourd'hui certaine qu'ils le seront, nous pourrons, pour le personnel de la ville, être fiers de notre action. La gestion du personnel, la gestion des affaires, les fonctions de direction sont aussi des valeurs de gauche. Notre devoir est d'être exemplaire, de définir les règles et de les respecter, d'offrir des perspectives d'avenir au personnel qui souhaite évoluer et de lui en donner les moyens, d'être juste et d'être humain. La chaîne sera alors robuste, chaque maillon se sentira utile et reconnu, et les services offerts aux médecins par la ville seront meilleurs.
Monsieur le maire, en très peu de mots, puisque l'essentiel a été dit, ce que je voudrais dire, c'est que, à partir de ce rapport qui marque une gestion trempe-l'œil et d'imprévoyance, puisque c'est de cela dont il s'agit et qui ressort de ce rapport, qui marque la gestion passée, nous sommes passés depuis mars 2008 dans une gestion de transparence. Et cette transparence vit au jour le jour, et les médecins s'en aperçoivent dans le cadre d'un projet, d'une vision d'avenir pour la ville de Metz. Nous sommes, ceci dans un contexte de politique nationale qui vise à faire payer aux collectivités l'incohérence d'un État UMP qui en arrive même à ternir l'image de la France, faisant fuir les investisseurs. Notre projet, notre action, c'est l'antithèse de cette politique malthusienne de division de la société, d'insécurité sociale, économique et idéologique. Je crois que nous sommes là au cœur d'une conception de deux visions de la politique et de deux visions d'action municipale qui va nous différencier, qui nous différencie déjà et qui va amener cette ville et qui amène déjà cette ville, et on le voit avec le dynamisme qui est vivant et qui se constate au jour le jour dans la ville, tourisme, population et citoyens qui vivent dans une ville apaisée, contrairement aux discours qui sont par-ci, par-là, véhiculés sur l'insécurité. Parce que s'il y a une insécurité qui existe aujourd'hui, c'est l'insécurité sociale, économique et idéologique que draine ce gouvernement et qui voudrait faire retomber sur les collectivités une image négative, puisqu'elle cherche à faire payer aux collectivités cette incapacité à gérer le pays. Et on le voit bien, le piège dans lequel on essaye de nous enfermer, n'augmentez pas les impôts. Oui, n'augmente pas les impôts. Alors, on voudrait bien ne pas augmenter les impôts. Mais outre l'imprévoyance passée et les politiques d'État qui se déchargent sur les collectivités, nous sommes aujourd'hui dans une situation de redressement que nous avons amorcée pour justement prévoir, puisque gérer c'est prévoir, et pour permettre à notre action d'aller jusqu'au bout du projet qui a été engagé. Notre action est une action dynamique. 50 millions d'euros d'investissement par an, c'est un soulagement non négligeable pour notre commerce et nos PME-PMI, et ça se ressent très fortement. Et je crois que c'est là-dessus que nous devons continuer. Le passé va être soldé, puisque nous sommes là aujourd'hui pour solder ce passé. Cette Chambre régionale des comptes, somme toute, nous donne l'occasion de cela, et donc de sortir d'une campagne électorale qui a perduré quelque temps après les élections. Donc aujourd'hui, il s'agit bien de mettre en avant et de positiver notre projet au jour le jour. Ça nous permet aussi de mettre à niveau un certain nombre de nos équipements, parce que compte tenu de cette imprévoyance, je le dis parce que je sais que ça viendra sur le tapis, si ce n'est ce soir, un soir prochain, des difficultés financières de nos équipements culturels qui n'ont pas été mis à niveau depuis 20 ans sur le plan à la fois des relations avec nos voisins nancéens, à la fois avec l'État et à la fois avec la région, puisque j'aurai l'occasion de le démontrer, les différents déficits qui se cumulent depuis 2002 sur les différentes structures et que nous sommes obligés de rattraper en permanence à charge de la collectivité. Donc nous reviendrons là-dessus parce que ce sont des dossiers importants et je crois que c'est là-dessus maintenant que nous allons travailler et fermer ce chapitre d'une gestion passée. Merci.
Comptez, monsieur Thiel.
Oui, monsieur le maire et chers collègues, je voudrais tout d'abord dire que je trouve qu'il y a une différence assez substantielle entre le rapport de la Chambre régionale des comptes et l'exploitation politique qui en est faite. Parce que j'aurai l'occasion d'essayer d'y venir, mais lorsque vous avez tenu ce rapport, on avait l'impression que vous aviez là l'explication nécessaire à ce qui constitue votre mensonge originel, à savoir, cher Messin, chère Messine, je n'augmenterai pas les impôts pendant mon mandat. Vous l'avez dit, je vous ai remis une cassette d'ailleurs où c'est parfaitement enregistré par les journalistes confrères de France 3. Et alors, vous vous raccrochez depuis à cette, je dirais, ce mensonge qui est comme un péché originel sur votre mandat. Alors, ce rapport de la Chambre régionale des comptes, vous dites ça tombe à pic, puisque voilà qu'on nous explique que finalement, cette augmentation des impôts était nécessaire. Permettez, monsieur le maire, qu'après m'être étonné de la différence entre le rapport lui-même et l'exploitation politique que vous en faites, que j'en vienne tout simplement à dire qu'il y a une grande différence entre la synthèse qui est faite de ce rapport, et c'est vrai qu'il est assez critique, avec le rapport lui-même. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, je prends le rapport. Vous voyez, j'ai rien écrit. Je me suis dit, je vais parler comme ça, comme à mon habitude. Et je prends le rapport. Il y a deux côtés. Il y a le côté financier, il y a le reste. Pourquoi je dis qu'il y a deux côtés? Parce que ce qui compte dans une chambre régionale des comptes, ce sont les comptes. Permettez-moi de vous le dire. Et que donc tout ce qui est à côté, la vie qu'on peut avoir sur les piscines, le service du personnel, la poussée ou non des herbes ou des fleurs dans la ville, tout ça, je veux dire, n'engage que son auteur, c'est bien sympathique, mais ce qui compte pour une chambre régionale des comptes, ce sont les comptes. Alors sur les comptes, lisez comme moi page 23, investissement dans la ville. Les dépenses d'équipement par habitant de la ville de Metz sont en hausse de 39% sur la période 2004-2008. Cette hausse est la plus forte enregistrée et elle est plus forte que la moyenne de la strate qui est à 23%. Sur la dette, cet endettement qui demeure très faible est largement couvert par la capacité d'autofinancement brut de l'exercice 2008, toujours page 23. La trésorerie, c'est page 24, la trésorerie représente en moyenne plus de 118 jours de fonctionnement, soit un ratio suffisant pour une commune de la taille de Metz. Je prolonge un petit peu plus loin, si vous voulez, avant de revenir sur l'effet ciseau, parce que ça, c'est quand même assez, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Alors, les frais financiers, là, je reviens un petit peu en arrière, c'est page 20. Non seulement les frais financiers ont été largement couverts par l'épargne de gestion disponible sur l'ensemble de la période, mais ils sont également en baisse sensible, traduisant un effort de désendettement de la commune. Bien, on continue, page 21 si vous le voulez bien. Cette tendance à la baisse des frais financiers, c'est important les frais financiers, c'est de l'argent qu'on dépense inutilement si j'ose dire. La tendance à la baisse des frais financiers est inverse à celle observée par la moyenne de la strate. Vous adorez les moyennes de strate. Ainsi, alors que les frais financiers par habitant ont diminué à Metz de 63%, les frais financiers, entre 2004 et 2008, ils ont augmenté de 7% pour la moyenne de la strate. En 2004, le niveau des charges financières par habitant était inférieur à Metz de 62% par rapport à la moyenne de la strate. Bien. Alors, je pourrais comme ça multiplier un certain nombre d'exemples, mais je ne veux pas vous lasser à relire le rapport de la Chambre régionale des comptes. Ce que je veux dire, c'est que sur tous les aspects, l'investissement, les frais financiers, le désengagement, le désendettement de la ville, fait que c'est un rapport qui, moi, je trouve très bien. Sauf que, lorsque l'on lit la synthèse, on ne retrouve plus tout à fait cet aspect des choses. Alors, j'en reviens à l'effet ciseau, parce que, alors ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Pourquoi ? Parce que l'effet ciseau, figurez-vous, monsieur le maire, qu'on en parle dans d'autres rapports de la Chambre régionale des comptes. Et je me suis amusé, si j'ose dire, parce qu'il y a des plaisirs plus fins dans la vie, à ressortir le rapport de la gestion de la Chambre des comptes précédent, c'est-à-dire celui qui date de 2002-2003 et qui est sur l'autre période. Alors de nouveau, on trouve tous les bons points. Bons points sur le désendettement, de bons points sur la fiscalité, bons points sur la gestion rigoureuse, on pourra y revenir, bons points sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement, etc. Enfin bref, des bons points partout. Sauf qu'à un moment donné, le rapporteur dit effectivement qu'il conviendrait de s'inquiéter de l'augmentation des charges de la ville par rapport à la fiscalité. Et il n'emploie pas l'effet ciseau, mais ça revient au même, c'est la définition. Autrement dit, ce n'est pas nouveau. Mais pourquoi ? Parce qu'un magistrat de la Chambre régionale des comptes est d'abord un financier, un comptable, qui doit avoir une vue statique des choses. Mais monsieur le maire, ne revenons pas sur le sujet. Il y a deux façons d'éviter l'effet ciseau. Le premier effet, déjà, c'est au lieu de se dire « j'augmente mes charges de fonctionnement, elles restent, et donc il faut que les impôts suivent », c'est peut-être de dire « pour que les impôts ne suivent pas, je ferais mieux de diminuer mes charges de fonctionnement ». On n'en parle jamais du ciseau, hein ? Comme si l'effet ciseau, c'était un effet coiffeur, où on couperait les cheveux en quatre, ou alors un effet tailleur, où on taillerait des croupières. Je ne sais pas ce que c'est de l'effet ciseau. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'a dit toujours votre prédécesseur ? L'effet ciseau, je m'en fous. Je préfère élargir le nombre de contribuables que d'augmenter les impôts de ceux qui existent. Et pour augmenter le nombre des contribuables, il faut avoir une vue politique dynamique des choses, faire en sorte que nos réserves foncières se construisent d'immeubles pour engendrer de la taxe foncière et de la taxe d'habitation et accueillir des entreprises qui engendrent la taxe professionnelle. Et ça, c'est le cercle vertueux. Et ça, c'est le cercle qui vous embête. Parce que votre prédécesseur, c'est en fait le maire qui n'a pas augmenté les impôts pendant un quart de siècle, alors que vous, ça fait 2 ans que vous êtes au pouvoir, et ça fait 2 ans que vous les augmentez. Et vous nous direz, au bout du 3e année de pouvoir, si vous allez encore les augmenter. Alors, il y a quand même une différence fondamentale, et je voudrais vous dire que je trouve que ce rapport, il mérite une lecture quand même un petit peu plus précise. Alors ensuite, permettez-moi de vous dire qu'il faut être un peu plus global et ne pas avoir une vue partielle. Le magistrat de la Chambre régionale des comptes, il fait son métier. Il s'intéresse à la ville de Metz. Point. Mais il faut mettre tout ça en perspective par rapport à Metz Métropole. Il faut mettre ça en perspective par rapport à des investissements qui ne sont pas faits par les collectivités publiques, mais qu'on encourage à faire par les délégataires de services publics. Tous ceux qui sont en charge du palais des sports, des parkings, etc. Vous trouvez que les parkings n'ont pas été rénovés à Metz, ils l'ont tous été, etc. Qu'il fallait encore en construire en délégation de services publics. Ça n'engendre pas 1 centime d'euro de finances publiques, tout ça. Donc on peut moderniser une ville, et ça, ça compte dans l'investissement. Vous savez comme moi, monsieur le maire, que le social, il y a eu un rapport sur le CCAS qui est extrêmement favorable. Or, de ça, on ne parle pas du social, puisqu'il y a un autre rapport, celui du CCAS, et que là, on lirait que, eh bien, on a des équipements, on a de l'investissement, on a fait beaucoup plus, n'est-ce pas, que ce que vous avez fait pour l'instant en 2 ans et demi de prise de fonction en matière sociale, sur la petite enfance, sur l'accueil, etc. Donc je veux dire par là, il faut mettre tout ça en perspective et pouvoir en juger globalement. Maintenant, alors ça tout le monde en fait des gorges chaudes, sur la différence d'investissement, ce qui est voté et ce qui est réalisé. D'abord, monsieur le maire, permettez-moi de vous dire que le rapport note un certain nombre de choses, alors ça passe des tringles à rideau jusqu'à autre chose, qui devaient être en investissement, en équipement, et qui sont passés en frais de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que quelquefois, il y a intérêt pour certains, notamment l'État, à ne pas verser trop de fonds de compensation de TVA, vous voyez ? Alors, bon, ça c'est une raison. Mais la raison fondamentale, c'est que les recettes fiscales, le produit fiscal attendu, s'il vous plaît, était toujours en retard par l'État jusqu'à ces dernières années où l'État s'est largement amélioré avec la Direction générale des finances publiques, où les bases vous sont données fin décembre ou au plus tard, allez, on va dire novembre-décembre, vous les avez, ce qui vous permet de préparer le budget, vous comme votre prédécesseur pour les dernières années. Quand les bases étaient communiquées fin février, hein, ou courant février, le budget ne pouvait être présenté qu'en mars. Et donc, il faudrait faire à ce moment-là le calcul de l'investissement de mars à mars, et non pas de mars à décembre, pour avoir une vue générale des choses. Alors, je voudrais dire, monsieur le maire, pour l'autre volet, parce que sur les finances, c'est parfaitement clair, je pense que tout le monde l'aura compris. Sur l'autre volet, ça n'engage que l'auteur. Alors, il critique l'administration. Il l'a dit, la précédente administration est archaïque. Alors ça, c'est nouveau, parce que figurez-vous qu'elle n'a pas changé, l'administration pyramidale sous Jean-Marie Rouge. Elle a été mise en place par Dominique Schmitt, et je crois qu'elle n'a jamais changé. Il y avait un directeur général, des directeurs généraux adjoints, un peu comme un ministère, un peu comme une cour la Chambre régionale des comptes, qui est organisée comme ça. Il y a un président, il y a des vice-présidents de chambre. Bien. Eh bien, maintenant, on trouve ça archaïque. Mais permettez-moi de vous dire que jamais ça n'a été qualifié de tel dans les précédents rapports, alors que ça n'a pas changé. Alors c'est devenu archaïque en 3-4 ans, si je comprends bien. Mais parlons-en. L'ancienne administration permettait d'y voir clair. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, votre organigramme est strictement incompréhensible. Non seulement pour l'extérieur, mais même pour les propres services qui ne s'y retrouvent pas. Et la preuve en est, c'est que vous aviez un directeur général que vous aviez pris pour la mettre en place et que vous l'avez vous-même renvoyé. Alors, je ne voulais pas, Madame Fritsch-Renard, intervenir sur le personnel, mais vous m'en donnez l'occasion parce que la part est trop belle. Le personnel, il n'y aurait pas assez de monde dans le bureau chargé de gérer le personnel. Mais en quoi ça regarde un magistrat de la Chambre régionale des comptes? Je veux dire, un maire est libre d'organiser, et moi je trouve que c'est plutôt bien d'administrer les choses avec le moins de fonctionnaires possible. C'est ce que tente l'État, figurez-vous. J'aimerais bien d'ailleurs que les collectivités locales prennent modèle aussi. Hein, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, c'est quelque chose qu'on a dans la tête, quelquefois. Bien. Eh bien, avoir un service pléthorique n'est pas forcément quelque chose de bien. Alors, je voudrais quand même vous faire observer, ça c'est Madame Fritsch-Renard qui m'en donne l'occasion, de vous dire que vous aviez une directrice. Vous l'avez mise dans un placard. Vous avez ensuite pris un autre directeur qui vous a pas satisfait. Vous avez repris la directrice du personnel qui était avant. Mais elle en avait tellement eu marre que, compte tenu qu'elle est très compétente, elle s'est trouvée à être embauchée chez votre collègue, le président de la région Lorraine. Voilà. Si je ne voulais pas en parler, mais puisqu'on me cite à en parler, je le fais. Alors, les piscines, je me suis dit, mais pourquoi cette focus sur les piscines? Quel est l'habitant de l'agglomération, ou de Metz plutôt, puisque c'est Metz qui nous concerne, qui trouve qu'il y aurait un problème de piscine? Il n'y a pas vraiment de problème de piscine. Que Jean-Luc Baule répare déjà la sienne, et puis ça fera déjà un peu plus de piscine dans l'agglo. Bon, mais je veux dire, je me suis posé la question, jusqu'au moment où j'ai trouvé la réponse dans le journal, où on m'a dit, mais c'est le maire lui-même qui a demandé qu'on regarde le problème des piscines. Je me suis dit, mais pourquoi? Je ne veux tout de même pas croire que vous aviez un compte à régler avec votre ancienne attribution d'adjoint au sport de Jean-Marie Roche, où vous aviez eu entre vous un débat sur les piscines. Parce que ça date. Alors ça, pour archaïque, c'est un vieux débat archaïque. Alors, je me suis dit, je ne vois pas ce que vient faire les piscines là-dedans. Alors, je passe. Alors, moi, je vais vous dire, globalement, je trouve que tout ce qui concerne la partie financière, il y a une espèce d'exploitation politique à faire croire que le prédécesseur qui a occupé ce poste pendant si longtemps était quelque part un espèce de gestionnaire, un peu comme ça, qui laissait aller les choses, voire même pas un très bon gestionnaire, ou qu'il faudrait écorner cette image. Alors moi, en conclusion, je vais vous dire les choses très simplement, monsieur le maire. Vous avez hérité d'une ville où le taux d'imposition, c'est vrai, est un des plus bas de France. Permettez-moi de vous dire qu'en quelque sorte, on est premier de la classe. Vous avez hérité d'une ville qui était la moins endettée des villes de plus de 100 000 habitants de France. Là encore, on était premier de la classe. Vous avez hérité d'une trésorerie florissante, dont les magistrats eux-mêmes reconnaissent le côté extraordinaire. Là encore, on était parmi les premiers de la classe. Vous avez hérité de ce qu'on appelle une cagnotte, je préfère dire, de réserve extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est les premiers de la classe. Est-ce que la ville n'était pas belle? Est-ce que la ville n'était pas saine? Est-ce qu'elle n'était pas propre? Est-ce qu'elle n'était pas sûre? Est-ce qu'il n'y a pas eu ces travaux, ces places de Saint-Louis à la place de Chambre, etc., qui ont été faits, tous les travaux dont j'ai parlé tout à l'heure, l'action sociale qui a été menée? Alors, laissez-moi simplement vous dire à propos de la gestion pépère chère à M. Jean, que je souhaite finalement, vous en avez l'âge, que vous soyez un bon pépère et que vous gériez les choses de la même manière. C'est-à-dire que quand vous conclurez votre mandat, ce mandat-ci, on puisse dire on est toujours premier de la classe. Alors que quand je vous écoute et que je vous entends, on dirait que votre ambition, c'est d'être dans la moyenne. Eh bien, il est bon d'être dans la moyenne quand on est le dernier, il n'est pas bon d'être dans la moyenne quand on est le premier. Je vous remercie.
Bravo. Oui, monsieur le maire et monsieur l'ancien adjoint au maire, je serai très court, parce que l'exposé de Patrick Thiel, me semble-t-il, est imparable sur le fond du dossier et sur la situation que vous avez héritée. Mais moi, il y a une chose, très simplement et de manière très brève, qui m'a un peu heurté. C'est, figurez-vous qu'en ce moment, je regarde un peu votre historique aux élections cantonales. Donc j'essaye de retrouver des documents anciens. Alors vous avez commencé à Metz-Borny, me semble-t-il, et votre parcours à Metz 1 commence en 92, si vous me le confirmez. Et vous aviez à ce moment-là un slogan de campagne qui était « Réussir le quotidien ». C'est un très beau slogan, parce que fondamentalement, les élus que nous sommes ont vocation à rendre plus agréable la vie de nos concitoyens. Et alors, au regard de ce slogan, je me dis quand même qu'il faut être sacrément coupé des réalités du terrain pour jubiler à ce point à la lecture de ce rapport. Et l'exemple le plus, je dirais, prégnant, c'est les impôts. L'effet ciseau. Bon, tout ça, c'est de la théorie. Après, il y a des choix politiques et il y a un contexte. Les choix politiques, par exemple, c'est plutôt de diminuer les dépenses de fonctionnement. Et le contexte, c'est le contexte de crise. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le quotidien des médecins que vous avez oublié. Et je me dis d'ailleurs que si la situation est si grave, parce que le tableau est noir quand même, bah, devons-nous comprendre que les impôts augmenteront durant toute votre mandature. Et dans les prochaines semaines, nous serons amenés à voter le budget suivant, donc c'est quasiment acté. Et si ça ne l'était pas, bah c'est qu'il y aurait peut-être un argument électoraliste, mais je n'ose le croire, parce que la situation a l'air vraiment grave à vous entendre. Et alors, la question que les médecins se posent, c'est, on paye plus d'impôts, et c'est vrai que, notamment les classes moyennes, c'est très important. D'ailleurs, c'est en ce moment, pour soi.
Oui, c'est en ce moment.
Et la question que tout le monde se pose, c'est, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est en plus? Est-ce que la ville est mieux tenue? Et là, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert de tout ce qui ne va pas. Mais enfin, combien de courriers faisons-nous, nous élus d'opposition, pour signaler 10 cm d'herbe sur les trottoirs? Combien de courriers faisons-nous pour signaler de l'inquiétude grandissante de nos concitoyens médecins sur la sécurité, les commerçants? Tout ça, c'est une réalité, c'est le quotidien. Sur les parkings qui ont augmenté, parkings aériens, parkings souterrains, où les tarifs ont augmenté. Là aussi, nous sommes dans le quotidien. Et au final, bon, je passe sur la prospective, où je pense que c'est aussi un gros point faible. On l'a vu sur le centre des congrès, on l'a vu sur Bon Secours, qui partira d'ici quelques mois, docteur Califé, en 2012. Et on dira, et on commencera probablement à réfléchir à ce moment-là. Il n'y a aucune réflexion qui est menée, mais ça, ce n'est pas dans la Chambre régionale des comptes. Donc, au final, monsieur le maire, le slogan de 92 était un beau slogan. La réalité de 2010 en est tout éloignée. Je vous remercie.
Merci. Madame Nicolas.
Oui, monsieur le maire, chers collègues. Alors, j'ai lu aussi avec beaucoup d'attention ce rapport et j'ai fait comme monsieur Thiel. J'en ai profité pour relire le précédent rapport de la Cour des comptes de 2003. Alors, en 2003, cette Cour des comptes avait conclu que la situation financière de la ville était satisfaisante, avec néanmoins une mise en garde sur les dépenses de fonctionnement qui étaient alors en progression par rapport aux recettes, même si les marges de manœuvre restaient tout à fait correctes. Afin que la ville puisse continuer sa politique d'investissement sans augmenter la pression fiscale, la Cour des comptes lui recommandait alors une meilleure maîtrise de sa gestion courante. Alors, à la lecture de ces deux rapports, il y a plusieurs réflexions qui s'imposent. En premier lieu, monsieur le maire, vous ne pouviez ignorer ce rapport établi en 2003, puisqu'il a été, comme ce soir, présenté au Conseil municipal. Il me semble donc que vous avez fait preuve d'une totale mauvaise foi lors de votre campagne électorale, en promettant aux électeurs de ne pas augmenter les impôts, alors que vous n'aviez déjà aucune intention de maîtriser les dépenses de fonctionnement, bien au contraire. D'autre part, le rapport que vous nous présentez ce soir ne va pas pouvoir vous dédouaner de votre politique budgétaire, car vous ne suivez pas les recommandations de la Cour des comptes, à savoir soit une maîtrise des charges et non pas une augmentation des impôts. Tout au contraire, et cela est clairement indiqué dans ce rapport, la tendance à la hausse des charges de fonctionnement s'est poursuivie en 2009. D'où la pression fiscale que vous imposez aux médecins. Moi, vous me faites penser, monsieur Thiel faisait référence aux bons élèves, moi, vous me faites plutôt penser aux mauvais élèves qui justifient leurs mauvaises notes en argumentant auprès de leurs parents que d'autres élèves auraient eu des résultats peut-être moins bons qu'eux. C'est bien mal connaître les médecins pour penser qu'à un seul moment, ils vont valider ce genre d'argument. Enfin, il est à noter que la Cour des comptes a consacré une grande partie de son analyse au processus de la commande publique, faisant ressortir un grand nombre d'anomalies graves en contradiction flagrante avec le Code des marchés publics, à savoir la méconnaissance par la ville de Metz de ses obligations de publicité, de mise en concurrence, de transparence dans le cadre du processus de la commande publique. Une mise en œuvre des critères de choix des entreprises non conformes à la réglementation, viciant ainsi l'analyse des offres. Un défaut ou une insuffisance de motivation des choix de la commission d'appel. Des délais de soumission parfois insuffisantes et un manque de formalisme en matière d'enregistrement, etc., etc. Monsieur le maire, je ne sais pas si ces pratiques existaient sous l'ancienne mandature. En tout cas, dans la Cour des comptes de 2003, rien n'était signalé. Mais force est de constater qu'elles sont aujourd'hui d'actualité, puisqu'un grand nombre d'anomalies citées par la Cour des comptes se sont produites sous votre mandat. Il serait grand temps de mettre terme à ces anomalies afin d'éviter tôt ou tard toute dérive. D'ailleurs, la Cour des comptes ne s'y trompe pas, puisqu'elle émet 25 points, soit plus d'un tiers de ses recommandations sur la commande publique. Le message est donc clair et le prochain rapport de la Cour des comptes fera aussi son œuvre. Je vous remercie.
Merci, madame. Madame Collin-Osterlé.
Oui, monsieur le maire. En vous lisant dans la presse et en vous écoutant, en écoutant vos adjoints, ce soir, je me faisais la réflexion suivante. Finalement, ce rapport, quelle aubaine pour vous, parce que finalement, ça ne peut pas tomber mieux. À quelques semaines de la présentation de vos orientations budgétaires pour l'année qui vient, je peux comprendre votre satisfaction et les railleries diverses et versées. Ma foi, c'est la loi du genre. Alors, je trouve en revanche regrettable de constater qu'il s'agit là, tout à fait comme le disait Patrick Thiel, d'un rapport en opportunité sur la gestion de notre ville. Et je suis extrêmement surprise d'y trouver des considérations qui portent sur des choix politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'on les approuve ou pas. Cela relève du choix d'une équipe élue au suffrage universel. Et le jugement en opportunité n'a, me semble-t-il, absolument pas sa place de la part d'une institution par ailleurs tout à fait respectable et nécessaire. Alors permettez-moi également de vous dire que l'humilité devient chez vous et les membres de votre équipe une qualité bien rare, et je me permettrai de vous mettre en garde. Car si le gonflage à l'hélium est mauvais pour la santé, je vous souhaite surtout, monsieur le maire, de pouvoir afficher la même satisfaction lorsque cette institution se penchera sur votre mandature et sur les effets induits par vos choix politiques. Alors finalement, on pourrait aisément considérer ce rapport comme un blanc-seing qui vous permettrait de poursuivre dans l'inflation de la dépense de fonctionnement et l'augmentation des impôts. Bien oui, puisque nous sommes en deçà de la moyenne de la strate. Et votre objectif, si je l'ai bien compris, c'est d'être dans la moyenne de la strate. J'ai quand même, à l'instar d'ailleurs de Thierry Jean, retenu un passage du rapport qui parle de la diminution du nombre de foyers fiscaux à Metz ces dernières années. Et moi, je pense que ça devrait nous interpeller, car ce n'est certainement pas en taxant davantage, même si l'on est dans la moyenne de la strate, que l'on devient plus attractif. Et puis enfin, je m'étonne quelque peu que vous vous glorifiez de ce rapport, car, si je ne me trompe pas, les affaires étaient alors gérées par un directeur général des services, que tout le monde connaît ici, qui n'est autre aujourd'hui que le président bis du Conseil régional de Lorraine, puisque M. Masseret est bien plus intéressé par sa réélection aux élections sénatoriales que par l'avenir des demandeurs d'emploi lorrains. Et je trouverais assez fair-play, finalement, que M. Lieugé, conseiller régional de la majorité socialiste aujourd'hui, vienne plutôt défendre le bilan de celui qui porte aujourd'hui les affaires de la région. Ce serait tout de même la moindre des choses. Alors, Monsieur le maire, si l'avenir qui aujourd'hui, évidemment, nous importe, est la ville que nous offrirons demain à ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui étudient dans notre ville, ceux qui élèvent leurs enfants, ceux qui ont envie de s'y installer, d'y créer de l'emploi et des richesses. Et il serait bon de réfléchir à dépenser mieux plutôt qu'à dépenser plus. Alors, deux exemples pour étayer mon propos. Tout d'abord, en ce qui concerne l'évaluation des dispositifs, dispositifs dont on souhaiterait qu'ils soient plus efficients, je pense notamment aux observations dans le rapport relatives à la politique de la ville, pour laquelle l'évaluation, nous dit-on, est inexistante, et ce depuis des années, parce qu'il n'est pas politiquement correct de parler d'évaluation dès lors que l'on entre dans le champ de l'insertion. Le CCAS, deuxième exemple, chargé des personnes exclues, de la petite enfance et des personnes âgées. Augmentation, comme le rappelait Patrick Thiel, de 32% en 4 ans, entre 2004 et 2008, avec la construction de nouveaux équipements indispensables pour répondre aux besoins des familles. En ce qui vous concerne, je le rappelle, l'augmentation de la subvention de la ville a été de 2 000 euros, avec une absence de consommation de près d'1 000 000 d'euros sur l'enveloppe 2009. C'est dire l'intérêt que cette équipe porte aujourd'hui à ces secteurs, à la construction d'équipements petite enfance tant attendus par les familles, équipements que vous conditionnez aujourd'hui au financement de 60 places par des entreprises ou collectivités. Eh bien moi, je vais vous dire, je le trouve bien moins frileux lorsqu'il s'agit de lâcher des centaines de milliers d'euros pour le bling-bling que vous ne cessez par ailleurs de dénoncer chez nos dirigeants et que nous aurons l'occasion d'aborder lors des points suivants. C'est toute l'ambiguïté des choix qui sont les vôtres, Monsieur Gros, car si certains sont respectables et partagés par beaucoup de médecins, je pense aux cantines, je pense aux périscolaires, je pense à Mesplage, ils ne représentent qu'une part infime du budget de la ville, bien loin de pouvoir justifier les millions supplémentaires prélevés sur les ménages médecins et qui ne peuvent constituer à eux seuls le socle d'une politique prospective et être les facteurs de développement dont nous avons crucialement besoin. Alors j'espère que nous aurons toute latitude dans les prochaines semaines pour évoquer ces choix qui sont les vôtres et en débattre lors de nos prochaines discussions budgétaires. Je vous remercie.
Merci madame. Eh bien, docteur Jacquat. Oui,
monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai écouté donc les différents intervenants, j'ai lu le rapport de la Chambre régionale des comptes et en tant qu'ancien adjoint de Jean-Marie Roche, je tiens à indiquer que je partage tout à fait les remarques de Patrick Thiel et quand je me souviens de toute la littérature au niveau national, que le Capital, le Journal des Échos, la Tribune et autres, Metz était cité en exemple au niveau national pour sa gestion. Et j'avoue que quand j'ai lu ce rapport de la Chambre régionale des comptes, j'étais extrêmement donc surpris et j'ai retrouvé aussi dans le chapitre politique de la ville des phrases que j'avais entendues en son temps, chez les élus, des phrases que j'avais dues en son temps, critiquant donc la politique qui a été qualifiée il y a quelques instants d'un peu pépère de Jean-Marie Roche. Je me dirais que c'était la politique d'une personne qui avait un sens mosellan des choses, qui privilégiait donc l'investissement sur le fonctionnement et qui donnait satisfaction aux médecins. Car ne l'oubliez pas, Monsieur le maire, avec tout le respect que je vous porte, que si vous êtes maire aujourd'hui avec votre majorité municipale, c'est grâce à nous. Et je vous reproche encore de ne pas nous avoir dit merci. Alors, je dirais, à ce propos...
Je l'ai déjà fait souvent.
Pas assez souvent et pas assez fort, surtout. Simplement, et...
Je sais que je peux compter sur vous.
Monsieur Thiel...
On a des exemples.
Monsieur Thiel vous a parlé donc du parti financier. Moi, je vous parlerai un tout petit peu de la politique de la ville, étant donné que j'ai eu en charge un moment donc ce dossier. Et j'avoue que ce rapport de la Chambre régionale des comptes m'a étonné sur un point. C'est qu'il ne cite pas en particulier le fait que jamais votre municipalité n'a signé la troisième et dernière tranche du GPV, où il y avait un financement d'État, où dans les finances municipales était prévu donc l'argent donc pour le financer. Et vu les règles existantes, et on savait qu'ils changeront, on peut se poser des questions pour l'avenir. Je vous rappellerai qu'en particulier, la Cour du Languedoc faisait, et les Tours du Limousin faisaient partie de ce programme. Mais, monsieur le maire, ce soir, et concernant la politique de la ville, et plus particulièrement donc le secteur du GPV, je voudrais vous dire merci. Un grand merci. C'est avec ce qu'on a trouvé ce soir sur nos tables, ce document, Nouvelle perspective pour Metz-Borny, avec le retour à Metz-Borny, qui était une demande des habitants. Hein, vous vouliez du Borny, Metz-Borny. Et quand je lis tout ça, à chaque chapitre, je peux dire merci Jean-Marie Roche, merci Jean-Marie Roche, merci Jean-Marie Roche. Et même, vous pourriez me dire, pour la salle des musiques actuelles, une petite salle était prévue quand même sur le secteur. Elle a été, donc vous avez décidé que la grande salle prévue au centre viendrait donc se superposer à cette petite salle. L'idée était là, vous l'avez donc amplifiée, mais ce document montre très bien, à part, je dirais, la SMAC, que tout est dû au travail qui a été effectué en amont. Mais vous faisiez partie à l'époque de l'opposition municipale. La seule chose, vous étiez beaucoup plus critique que nous le sommes, car n'oublions pas, nous, ce que nous voulons, c'est que les médecins vivent heureux dans leur ville. Alors, justement, ce succès, ça m'a fait rappeler tout à l'heure, quand je lisais ceci, eh bien, le fait qu'en son temps, six ministres sont venus sur le quartier de Metz-Borny, que de nombreuses délégations de fonctionnaires d'État, de villes, dont la ville de Nancy, sont venus voir ce qui se passait. Il y a eu des colloques, des congrès, et un sous-préfet à la ville que vous avez bien connu, M. Gros, qui était M. Pélisson, citait Grigny et Metz comme des exemples à montrer au niveau national. Alors, quand j'ai lu le rapport, je me suis dit, oh, attention, qu'est-ce qui se passe? Mais j'avoue qu'il aurait peut-être été bon que les personnes, même si ce n'est pas dans les habitudes, les us et coutumes, que les commissaires enquêteurs ou le commissaire enquêteur viennent voir les personnes adéquates, consultent la bonne documentation ou même que vous lui donniez ce document, je dirais, par anticipation. Et à ce propos, je rappellerai que concernant les GPV, parce que je n'ai pas retrouvé ceci dans le document, mais les GPV, quand cela a été décidé donc en son temps, il n'y avait que les GPV, il y en a eu à peu près, je crois, 44, donc au niveau national. Metz-Borny, dans un premier temps, il n'y en avait qu'un peu plus de 40. Il y avait donc un seul pour la Lorraine, il était sur le quartier de Metz-Borny, qui était le quartier le plus délicat de notre région. Il n'y avait pas Nancy, il n'y avait pas d'autres secteurs. Et ce n'est que l'ANRU, qui n'a été que créé 2 ans après la mise en place du GPV, donc qui a bien tourné donc le départ, qu'à partir de la création de l'ANRU, que vous avez eu une prise en compte d'autres quartiers dans la ville de Metz. Et à ce propos, on peut remercier encore publiquement aujourd'hui le préfet de l'époque, qui était Mademoiselle Malgorn, qui nous a donc beaucoup aidés, dans, justement, d'une part dans le GPV, mais aussi dans le cadre de la création de l'obtention de crédits ANRU dans d'autres secteurs. Car comme vous le dites, monsieur le maire, et vous avez assisté vous-même, et je vous en remercie encore, à des réunions que j'ai animées sur les quartiers nord de la ville, il y avait des oublis. Le quartier de la Patrotte, par exemple, le gouvernement qui était en place en l'an 2000, je dis bien l'an 2000 au niveau national, n'avait pas inscrit le quartier de la Patrotte dans la politique des quartiers sensibles de notre ville. C'est monsieur Bourleau, vous le savez fort bien, quand il est venu ici à Metz, et à ma demande, qui a remis donc le document comme quoi... avait été oublié aussi, c'était extrêmement particulier, une rue, qui est la rue du 18 juin, donc à Metz-Bellecroix. La rue du 18 juin, c'était la rue la plus délicate, la plus sensible qui existait sur le quartier de Metz-Borny. Donc il a fallu corriger, je dirais, des oublis donc, de l'époque. Et en fait, et ça je l'ai déjà dit donc, ici, et je ne voudrais pas donc, être trop long, c'était de décliner, et nous l'avons fait, c'est un traitement urbain, un traitement humain, et la chance que nous avons eue aussi, c'est de pouvoir avoir enfin un plan du patrimoine de l'OPAC de Metz sur tous les quartiers, dont les quartiers sensibles. Et ce qui a été extrêmement donc important, c'est qu'avec le plan du patrimoine, nous avons pu réhabiliter de très nombreux appartements, en particulier dans des secteurs comme Metz-Borny, mais d'autres quartiers sensibles de la ville, sans augmenter les loyers donc des personnes concernées et aussi faire obtenir donc des loyers gratuits pour les associations dans les secteurs concernés. Alors, vous avez eu, on cite souvent des comparaisons de quartier en quartier. Boileau-Prégénie, ça a dû être rattaché au secteur de Voipy pour l'unique raison que Voipy tout seul, qui a eu un classement aux rues, je dirais deuxième catégorie, donc en son temps, n'avait pas le nombre d'habitants, le nombre de chômeurs, il y avait plein de paramètres qui comptaient. Donc ça a été rattaché à ce moment-là, bien que Boileau-Prégénie n'était pas le secteur, rue Boileau, hein, j'insiste bien, n'était pas le secteur, je dirais, le plus sensible de la ville. Vous avez eu le quartier Anno-Barral-Fréco, qui a été un quartier très sensible et le plus pauvre à l'époque de notre ville, où il y a une réhabilitation qui a été faite, et ça s'est pas mal passé avec la CLCV de ce quartier. Le chemin de la Moselle, que vous connaissez fort bien, il y a eu une réhabilitation extrêmement lourde, depuis l'école en passant par les bâtiments, le centre social et des équipements tout autour, plus un traitement donc urbain. Et donc concernant le quartier de la Patrotte, je ne vais pas revenir longuement dessus, j'en ai déjà parlé ici, vous en connaissez parfaitement donc les causes. Il n'a pas été, ça je ne peux l'accepter, le mot d'oublier dans le cadre de l'ANRU, mais le fait qu'il y a eu des freins humains, comme ça a été dit tout à l'heure, en particulier une personne qui est devenue le conseiller principal du président de région, qui lui freinait, d'accord, donc au maximum à cela. Et Mme Genet, avec laquelle je vous entendiez fort bien, en souffrait elle-même de ce qui se passait à ce moment-là. Mais nous avons quand même obtenu donc un certain nombre de crédits, un traitement urbain et humain, la tour a été démolie et une réflexion a été engagée sur le Saint-Gargan. Sur le Saint-Gargan, la question était, faut-il démolir? Faut-il restructurer? Faut-il faire quelque chose? Et je vous rappellerai, sans être trop long non plus, j'insiste bien dessus, vous-même, Monsieur Gros, avec Madame le conseiller de Madame Lindemann, à l'époque, était secrétaire d'État, donc au logement, une réflexion était engagée déjà sur le 3 rue Paul Chevreux, donc en son temps. La seule chose que l'on peut dire, on aurait pu aller plus vite. Moi-même, je le dis publiquement, j'en ai souffert, donc personnellement, mais j'appartenais donc à une équipe, je ne crache pas dans la soupe à ce propos, mais on ne peut pas dire qu'il y a un oubli. Je vous rappellerai, je l'ai déjà dit, que plus de 7 millions d'euros au total ont été consacrés donc à ce secteur-là, concernant aussi bien le plan de patrimoine, concernant les écoles, concernant donc du bâti, etc. Et il y avait plein donc d'idées qui circulaient. Je conclurai donc en disant que concernant les crédits politiques de la ville devenus CUX, il y a eu la déclinaison, ils ont été transformés avec l'accord de l'État en volet social, soit du GPV, soit concernant donc l'ANRU, et ceci a été cité au niveau national, même par l'Association des maires des grandes villes. Alors en conclusion finale, ce que je vous dirais, Monsieur le maire, ce rapport, il me fait sourire de temps en temps, parce que j'ai retrouvé, je vous dirais, des phrases qui ne correspondent pas tout à fait à ce que notre commissaire enquêteur doit faire. Mais vous savez, Monsieur le maire, et je crois qu'à Patrick Thiel qui a parlé tout à l'heure et à toutes ces personnes qui font partie de l'équipe, de l'opposition constructive qui sont dans cette salle, eh bien vous savez, quand on est dans la rue, quand on est dans cette ville, quand les gens nous disent « quand est-ce que vous revenez ?», eh bien ceci, ça nous fait énormément plaisir.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Je ne voudrais pas revenir trop sur ce rapport. Je voudrais simplement répondre un petit peu à Monsieur Thierry Jean pour lui dire qu'effectivement, je n'ai pas dit que je m'en fichais seulement de l'effet ciseau. J'ai dit que je sais qu'il y a un effet ciseau, mais Patrick l'a très bien expliqué. Je crois que il y a un moment où, au niveau de l'effet ciseau, il y a à chaque situation particulière une réponse particulière. Et je pense que lorsque, notamment, on a eu l'audit, déjà à ce moment-là, au niveau de l'effet ciseau, j'avais expliqué que on avait des charges, oui, mais on avait peut-être dans l'avenir également moins de rentrées, il faut le savoir, et aussi, comme l'a très bien souligné Nathalie Collin-Osterlé, quand même une situation économique qui peut-être devait supposer une adaptation quand même à l'augmentation des impôts. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que il faut savoir que Metz Métropole va sans aucun doute, alors j'espère, chaque fois que je l'annonce, le président, heureusement, dit non. Alors j'espère que cette fois-ci, ça sera vrai aussi, mais je pense qu'il ne pourra pas éviter une augmentation d'impôts. Donc je souhaiterais vivement que sur Metz, il n'y ait pas en plus une augmentation d'impôts. Parce que deux augmentations d'impôts pour les Messins entre la Metz Métropole et la ville de Metz, je pense que ça fait beaucoup. Alors, Monsieur le maire, ce rapport, je vais vous dire, moi je vais intervenir très rapidement sur un point parce que on aura l'occasion, heureusement, dans l'ensemble du Conseil et de l'ensemble des rapports, de voir que oui, vous avez corrigé ce qui se passait sur votre canton. Et vous savez, les découpages électoraux m'ont donné la chance de mieux découvrir le premier canton. Et c'est vrai que je ne veux pas faire de peine à mon collègue Denis Jacquat, mais lorsqu'on regarde la page 93 et 94 de ce rapport, je pense que, si vous voulez, il faut quand même être sérieux. Et lorsque... Non mais attendez, moi je veux bien que le rapport soit pas si vous voulez, ce que vous attendez les uns les autres. Mais enfin, écoutez, il faut être sérieux. Quand le rapport dit « la pratique révèle de profondes inégalités entre les financements délégués à Voipy et à ceux alloués au quartier Messin », ces derniers ne percevront que 3 millions d'euros au titre de l'opération. Ces financements seront en outre répartis sur des opérations isolées et n'auront donc qu'un effet limité, voire inexistant. En outre, la modestie des financements destinés aux opérations de la ville de Metz, de l'ordre de 3 millions d'euros sur 37 millions du projet, confère aux aménagements conduits un caractère quasi confidentiel. Donc là, moi je veux bien tout, mais je pense, si vous voulez, que à ce niveau-là, il y a quand même eu, un oubli, et c'est vrai que d'autres quartiers ont sans aucun doute bénéficié de beaucoup plus, d'argent. Et le premier canton, quand même, vous savez, quand je vois les polémiques aujourd'hui dont je suis la victime, parce que tout le monde me répond, bon, c'est bien, au moins comme ça, à force de parler de moi, on saura que j'existe et que je vais être sur le premier canton, ça c'est sûr. Mais simplement, je vous assure que j'ai béni le rapport. Parce qu'au moins, là, pour le coup, j'ai une réponse. Bon, j'avais déjà la réponse de l'ANRU, mais là, j'ai une réponse définitive. Et là, si vous voulez, je crois, monsieur le maire, que c'est ce seul point sur lequel, je dirais, bon, moi, je souhaitais intervenir plus. Alors, un point, n'augmentez pas les impôts. Je vous exhorte de ne pas augmenter les impôts. Et puis, je dirais également à madame Friche-Renard, vous n'avez pas le bénéfice du cœur. Je crois que chaque élu, lorsqu'il s'engage dans la vie politique, il s'engage au service de ses concitoyens, qu'ils soient de droite ou de gauche.
Merci, madame. Madame, vous avez lu un paragraphe que je n'avais pas l'intention de lire, mais je pense que l'important, c'est de le continuer quand même. Parce que vous vous êtes arrêté un petit peu avant la fin du paragraphe, ce qui montre votre délicatesse. Mais je vais quand même le lire dans ces cas-là, puisque je ne peux pas me permettre de rester à une citation tronquée. Hein ? Et il s'agit toujours de Metz-Nord. Selon la même logique, l'ensemble des quartiers nord, et plus particulièrement celui de la Patrotte, n'ont été que rarement inclus dans les programmes de rénovation d'envergure ou simplement suffisants pour maintenir à niveau le quartier et ses équipements. Cette inflexion marquée en faveur du quartier de Borny au sein du dispositif de la politique de la ville tient probablement au fait que sous l'ancienne municipalité, la réunion dans les mêmes mains de l'OPHLM et de la politique de la ville était confiée à un adjoint dont l'assise électorale se confondait avec le quartier de Borny. Je m'excuse, madame, mais je me suis permis de lire parce que vous avez coupé la citation en son milieu. Sinon, je n'aurais pas parlé. Alors, je voudrais dire...
Vous m'avez cité.
Docteur, je ne vous ai pas cité.
Ah ben, hé, il ne faut pas être fou, oui.
Je
ne
vous ai pas cité.
Hé, monsieur le maire, vous n'avez pas joué au loto,
voudrais continuer.
Alors.
Je voudrais continuer.
Vous n'avez pas gratté les jeux de grattage, non?
Je voudrais continuer.
Ne vous connaissez pas? Non, mais vous m'avez attaqué, là.
Non.
Je
ne
suis pas fou, non? Et écoutez, je n'ai pas besoin d'aller voir un psychiatre à ce sujet-là. Je vous ai dit tout à l'heure, et j'étais très poli, que le GPV avait démarré 2 ans avant que les crédits en rue, que deuxièmement, les financements, il n'y avait rien à voir avec les autres. Et dans la phrase qui a été prononcée sur les quartiers isolés, il y avait plusieurs strates qui existaient. On était bien contents d'être attachés à la Patrotte et au chemin de la Moselle, à un des étages de l'ANRU. Je ne suis pas là pour faire de la polémique, mais monsieur le maire, vous êtes quelqu'un d'instruit et d'intelligent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous estime. Mais attention, quand vous faites de la dérive politique, vous ne vous devenez pas bon. Et ça, comme vous êtes catholique pratiquant, il faudrait aller vous confesser un peu plus souvent.
Alors, je m'étais simplement permis de compléter la citation de Mme Zimmermann, parce que je pense que votre voisine s'était interrompue partiellement. Alors, j'ai encore une intervention, c'est celle du docteur Califé. Monsieur Califé, vous avez la parole.
Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ben, c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites ce soir. Monsieur le maire, on n'est pas du même bord politique. Je crois que ça n'a échappé à personne. Vous avez choisi une voie. Moi, personnellement, j'en ai choisi une autre, en toute liberté. Mais bon, on ne s'entendait pas trop mal, dans un respect mutuel, et je pensais que vous aviez une certaine éthique. Je pensais aussi que vous étiez élu par les Messins, et en tant que tel, et que maintenant, enfin, la campagne électorale de 2008 est terminée, nous allions assumer, chacun dans son rôle, le travail à accomplir au sein de ce Conseil pour terminer ce mandat dans l'intérêt de nos concitoyens. Je pensais aussi que votre comportement négatif depuis plus de 2 ans maintenant vis-à-vis de votre prédécesseur était une simple réaction politicienne, une attitude presque banale, malheureusement, dans notre vie politique, un peu de cinéma de temps en temps, même si parfois vous nous avez un peu agacés et on vous a interpellé plus d'une fois, mes collègues et moi-même, sans trop de succès, il faut l'avouer. Ce soir, vous avez beau calmer le jeu, on a eu une leçon, 3 leçons d'économie, une leçon d'humanisme, et je rejoins Mme Zimmermann en parlant de monopole du cœur, excusez-moi Mme Zimmermann, concernant le personnel, on a eu une leçon d'urbanisme, on a eu une leçon d'économie, on a eu pas mal de leçons, mais je pense que le mal est fait, et vous avez globalement franchi une limite, la limite de ce que j'appellerais la déontologie politique et de la courtoisie humaine. Bon, je ne veux pas parler de malhonnêteté intellectuelle, ça serait trop dur, mais je pense qu'on n'en est pas là. Vous avez exploité, et d'une façon très politicienne, je trouve, et démagogique, un rapport qui, somme toute, il a été démontré à plusieurs reprises, somme toute, ne vous est pas si favorable que ça. D'ailleurs, en lisant la presse, on n'a pas vu de choses extraordinaires, à part un titre à la une, que ce soit dans l'hebdomadaire ou dans le quotidien. Donc, on est déçu, et moi, je suis un peu en colère ce soir, même si je me retiens, monsieur le maire, comme beaucoup de gens. Ce comportement, alors, est-ce que c'est vos fréquentations nouvelles qui vous ont rendu ainsi ? Vous voulez définitivement faire oublier aux Messins qu'ils ont élu durant plus de 35 ans, 37 ans, je crois, un grand maire. Voulez-vous faire oublier toutes ces réalisations anciennes ou en cours ou à venir, car tous les chantiers, ou la plupart, excusez-moi de le rappeler, sont ceux de votre prédécesseur et de l'équipe qui l'avait entouré. Je comprends qu'il vous soit difficile à vous et à toute l'équipe pendant quelques années de faire le travail des autres, de supporter l'idée d'être les simples exécutants ou les surveillants des innombrables chantiers qu'on vous a laissés. Mais bon, vous en avez retardé quelques-uns, vous êtes approprié d'autres, inauguré certains, on est ravis. Ce qui nous déçoit, c'est que certains ont été dénigrés et puis finalement ont été adoptés. Il a été dit à plusieurs reprises, quand vous avez pris vos fonctions, on vous a laissé une ville en plein essor, des caisses pleines, un magot de plus de 50 millions d'euros qui a rapporté en 2008, et c'est dans le rapport, un peu moins de 2,5 millions d'euros, donc ce n'est pas négligeable, des finances saines, sans dette ni emprunt, et vous avez inventé ce fameux effet ciseau pour pratiquer une augmentation, on l'a dit assez, injuste et injustifiée des impôts. On a la crainte, monsieur le maire, que vos conseillers financiers, qu'on avait vus d'ailleurs dans cette salle, et qui vous poussent à l'endettement pour être au même niveau de la moyenne de la strate, nous poussent à une catastrophe financière. Moi, j'ai un peu peur que ce soit ça qui nous inquiète, que c'est ça qui nous inquiète le plus, parce que ce nivellement par le bas, comme il a été dit, peut-être aussi, et je me demande si ce n'est pas les mêmes conseillers qui nous amène aujourd'hui à des finances de la République qui ont, depuis bientôt 30 ans, plus de 30 ans même, subi ce même raisonnement. Alors moi, je n'ai pas envie de parler d'effet ciseau, monsieur le maire, j'ai envie de parler d'effet cigale. Vous savez, la fameuse fable, la cigale et la fourmi. Alors, si on devait remettre en scène cette fable, on reconnaît facilement la fourmi, et vos cigales nous ont enchanté les Messins durant cet été. Mais attention, quand sera-t-il quand l'abysse sera fini? Donc, monsieur le maire, ce débat, on en a parlé, il oppose 2 systèmes de gestion. L'essentiel pour le Messin, c'est de savoir que Jean-Marie Roche a travaillé en toute légalité, et c'est ça qu'on demande à la Cour des comptes. Elle doit juger de la légalité des actes et non de leur opportunité. Cette dernière dépend du pouvoir politique en charge de l'exécutif. Maintenant, ça dépend de vous et on attend vos actions. La totalité de l'action de Jean-Marie Roche, je l'ai dit, était légale, elle était dynamique et s'inscrivait, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure par vos adjoints, elle s'inscrivait dans une économie de croissance que nous avions systématiquement favorisée par des investissements structurants type Technopole ou autres. Les limites de ce jugement, on les voit, il y a quelques exemples. Je vous ramène au rapport de 2008 sur la gestion de l'agglomération et dans lequel il était clairement stipulé une critique vis-à-vis de la création du centre Pompidou-Metz. Ces mêmes juges n'ont pas, excusez-moi de les critiquer, mais je suis obligé de constater quand même, qu'ils n'ont pas pensé que le centre Pompidou-Metz allait avoir ce succès qu'on avait prévu et contribuer au changement considérable de l'image de Metz, apporter une croissance et une prospérité pour la ville. Encore faut-il, mais on y reviendra tout à l'heure, qu'on sache le valoriser. Donc cette frilogicité l'amènera-t-elle, donc cette cour, à cautionner une politique sans ambition économique? J'ose espérer que non, et Patrick Thiel vient de faire une démonstration de la longue liste des griefs qui vous ont fait dans ce même rapport et que malheureusement, et c'est le reproche principal que je vous fais, occulté dans votre conférence de presse. On l'a dit tout à l'heure, vous avez le triomphe aveuglant, monsieur le maire. Attention, c'est dangereux. Pensez-vous qu'ils passeront aussi sous silence au prochain mandat, au prochain rapport, votre mandat en cours? Donc cette soumission triomphante, monsieur le maire, à ce rapport, qui ne vous est pas si favorable que ça, finalement, ça nuit à l'action politique et réduit les élus à des simples exécutants. Si vous le voulez, nous le refusons. Malgré la vaste campagne de communication et de propagande que vous venez d'orchestrer à travers la presse locale, je reste pour ma part persuadé que vous n'arriverez pas à tromper les médecins. Ils savent tous que les réalisations et la rigueur de gestion, c'est ce qu'il voulait surtout. C'était Jean-Marie Roche. Aujourd'hui, les dépenses et l'endettement et la hausse des taxes, c'est bien vous. Je voulais finir, monsieur le maire, par vous dire que dans votre attitude aujourd'hui, vous avez essayé, et permettez-moi d'emprunter une phrase à un de vos amis, vous avez essayé de livrer l'honneur d'un homme au chien. Soyez sûr que nous resterons là pour vous en empêcher. Merci.
Bien. Ah bah écoutez, je suis très heureux de pouvoir prendre la parole parce que je ne l'ai pas encore prise. On a déjà répondu. Excusez-moi, j'ai entendu parler de propagande. Là. Je voudrais prendre la parole, si vous voulez bien. Merci. Je prends ce rapport de la Chambre régionale des comptes pour ce qu'il est. Qu'est-ce que c'est qu'une Chambre régionale des comptes? C'est un ensemble de magistrats qui ont été installés par la République à partir du moment où on a décidé, dans les lois de décentralisation qui ont été faites au premier septennat de François Mitterrand, de contrôler a posteriori les collectivités locales qui s'étaient vues décerner le véritable exécutif des instances dans lesquelles elle siégeait. Et c'est une sécurité pour la République, et c'est fait par des magistrats. Figurez-vous que le débat que je viens d'entendre m'étonne beaucoup, parce que la vérité, c'est qu'on a le droit de répondre, et toutes les réponses que les personnalités concernées par ce rapport ont pu être faites sont là. Tout est là, aussi bien ma réponse que celle de mon prédécesseur. Je n'ai pas dit un mot sur mon prédécesseur, je n'entends parler que de lui. Moi, j'ai eu la plus grande estime pour mon prédécesseur et je sais très bien ce que la ville de Metz lui doit. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la Chambre régionale des comptes qui fait un rapport sur la gestion et la situation de la ville de Metz. Et moi, je le prends avec une certaine humilité, puisque ça concerne largement une période qui a précédé ma gestion. Ça concerne un tout petit peu de la période depuis laquelle nous sommes aux affaires. Et Pour rien vous cacher, je considère ça plutôt comme une feuille de route. Quel est l'essentiel ? On me dit tout simplement qu'il y a un problème du côté de l'investissement. Ça, ce n'est pas de l'effet ciseau, c'est simplement la façon de préparer l'avenir. On me dit ça. On m'explique que finalement, parce que ça, même si l'investissement a progressé, l'investissement n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait faire selon les standards que les juges peuvent avoir ailleurs. Et moi, je suis sensible à cet argument-là, à tel point que, dès le début, je me suis exprimé en ce sens. Je ne suis pas en train de critiquer telle ou telle réalisation passée, je suis en train de simplement de dire, nous avons du travail pour l'avenir. Je considère que ce document a bien des égards une feuille de route de ce que nous devons faire. Et je ne suis pas dans le triomphalisme. Je constate simplement qu'il y a certaines identités de vue avec le rapport qui a été fait par les experts que nous avons mandatés pour essayer d'y voir clair. Mais avouez que c'est quand même bien normal d'essayer de se comparer à ce qu'on nous a dit dans ce cabinet d'experts. Je constate que ce sont les mêmes remarques. Cela dit, moi, je nous invite tous à la modestie. C'est un bon document. Il faut travailler avec, dans tout un tas de domaines. Et personnellement, je ne suis pas en train... Moi, écoutez, excusez-moi, docteur. Sincèrement, mais Mme Zimmermann m'a tendu tellement la perche que je n'ai pas pu m'empêcher de continuer sa lecture. J'ai senti que Mme Zimmermann s'intéressait de plus en plus au canton 1, qu'elle y trouve qu'on y fait du bon travail. Alors, je suis sensible. Mais M. Aldra aussi, mais ce n'est pas la même analyse. Alors, si vous voulez bien que... Globalement, je me sens bien avec ce qu'elle dit, mais pour rien vous cacher, je prends acte de la pertinence des remarques et je prends acte également du redressement qui est signalé. Parce que, effectivement, les quelques mois, l'année et demie qui pouvaient être prises en compte, elle est signalée. Et sur un certain nombre de points, elle est signalée, notamment dans le domaine de l'investissement, comme étant un redressement. Dans un autre domaine aussi, je voudrais insister. J'entends ici et là des problématiques sur la transparence budgétaire. Je suis très sensible au fait que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Et personnellement, je ne renonce jamais à expliquer à qui que ce soit à Metz les ressorts essentiels du budget. Et en matière de transparence, on appelle ça la sincérité budgétaire, on essaie de dire le mieux possible ce qu'on a l'intention de faire dans un budget, de façon à ce qu'on puisse suivre, au fil des mois et de l'année, la réalisation de ce qu'on a prévu de faire. Et figurez-vous que je ne juge personne, je lis et je constate, me concernant, que le taux de réalisation des budgets importants d'investissement, pour lesquels nous sommes en train, effectivement, parce que sur l'investissement, c'est important d'être dans la moyenne de la strate, et c'est très gênant, d'être à 30%, malgré les efforts qui ont été faits, et c'est vrai, depuis longtemps, c'est très embêtant d'être à 30% en dessous de la strate, même en comptabilisant ce qui a pu se faire à Metz Métropole et ailleurs. Nous avons besoin de nous tourner vers l'avenir, et l'investissement est central. Si bien que je considère ce rapport comme étant un document de travail qui nous instruit, je le respecte d'autant plus que ce n'est pas un cabinet d'experts qui nous l'a fait, mais ce sont des magistrats de la Cour des comptes, je le prends pour ce qu'il est dans le cadre des lois de la République. Et j'ai du respect pour ces magistrats qui ont passé 4 mois ici. Et je ne me permettrai pas de faire le moindre commentaire sur leur commentaire. Effectivement, ils ne se contentent pas de comptabilité. Ils ne se contentent pas de ratio. Ils ne se contentent pas de moyenne. Ils donnent des avis sur un certain nombre de choses. Mais je pense que ça fait partie aussi de leur mission. Regardez tous les rapports qu'ils peuvent produire, tous les rapports jugent aussi en opportunité, même si, effectivement, c'est de notre responsabilité. Alors, je conclurai pour vous dire que je suis très heureux de ce débat. Je n'en tire aucune gloire, même si j'en ai pris plein la figure. Ça m'indiffère complètement. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de Metz. Et ce qui m'intéresse dans ce rapport, c'est qu'il constitue, pour nos débats futurs, pour le reste du mandat, un peu plus de 3 ans, un document de référence qui nous permet, grâce à ces hauts fonctionnaires qui se sont donné du mal pour évaluer la situation de notre ville, de nous permettre de mieux nous positionner pour les années à venir. Je vous remercie.